journal, Charlotte Piret. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous. La frontière entre l'homme et l'animal est-elle sur le point de s'effacer? Question éthique, question pratique désormais, puisqu'un chercheur japonais vient de recevoir l'autorisation d'implanter des cellules humaines sur un animal. Un attentat en guise de projet de sortie, un détenu pour terrorisme sur le point d'être libéré, suspecté de préparer une attaque imminente avec deux autres hommes rencontrés en prison. Dans l'actualité du jour également, accord trouvé au sein de l'Union européenne pour les migrants du Gregoretti, mais à quand une solution pérenne? Quand l'Église s'inquiète des expulsions à répétition de l'été, quand le quotidien Nice Matin décide de publier les noms des auteurs de commentaires nauséabonds, et puis des rêves de jeunesse au cinéma, le dernier film d'Alain Raoust est dans les salles.
Notre invité à 8h moins le quart ce matin, Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion de l'IFOP. Il signe pour la Fondation Jean Jaurès une enquête, Les Français et les vacances, quelles inégalités?
France Inter. Les uns y verront peut-être une grande avancée scientifique, d'autres dénonceront le franchissement d'une ligne jaune éthique. Tous s'accorderont sans doute sur le fait qu'une limite est sur le point d'être franchie, celle de la distinction entre l'homme et l'animal. Car le Japon vient d'autoriser un chercheur à réaliser des embryons mêlant humains et bêtes, les chimères comme on les appelle, en intégrant des cellules humaines dans un embryon d'animal modifié. Des expérimentations qui, pour des raisons éthiques, sont totalement interdites en France. Sophie Becherel.
Hiromitsu Nakoshi n'est pas un inconnu de la communauté scientifique. Ses travaux sur les chimères, il les mène à Stanford, aux États-Unis et à Tokyo. Jusqu'ici, il avait l'autorisation au Japon de cultiver des embryons hybrides jusqu'à 14 jours. Il injecte des cellules souches humaines pluripotentes dans un embryon animal dont il a retiré le gène nécessaire au développement d'un organe donné, ici le pancréas. Désormais, il aura le droit, puisque le gouvernement nippon l'y autorise, de cultiver des cellules humaines dans des souris et des rats jusqu'à ce que le pancréas soit quasiment développé. Puis il tentera de transplanter ses débuts d'organes hybrides dans des animaux de substitution. Il s'agit de voir s'ils sont tolérés par l'organisme receveur. Ces recherches, interdites dans de nombreux pays ou sous moratoire, visent, selon le scientifique, à pallier le manque d'organes pour les patients en attente de greffe. Pourtant, personne ne sait ce qui va se passer avec les cellules humaines greffées. Ne vont-elles pas migrer dans d'autres organes de l'animal receveur, notamment le cerveau? La technique de modification génétique, plus largement le but poursuivi, suffit-il à justifier l'expérimentation animale? Peut-on brouiller la frontière entre ces deux espèces? Les questions éthiques soulevées sont nombreuses.
Sophie Becherel, un projet d'attentat préparé en prison et déjoué la semaine dernière. Trois hommes, détenus ou récemment libérés pour l'un d'entre eux, ont passé ces derniers mois à concevoir une attaque, et si leur cible ne semblait pas encore bien défini, leur passage à l'acte était vraisemblablement imminent, Sophie Parmentier.
L'un des trois hommes, un revenant du djihad, devait être libéré au mois d'août après avoir purgé une peine de 6 ans de prison pour avoir manié la Kalachnikov en Syrie en 2014. En prison à Châteaudun, cet homme de 31 ans apparaissait comme un détenu modèle. Pratiquait-il en réalité la taqiya, cette fameuse technique de dissimulation? C'est en tout cas un autre détenu qui s'est fait remarquer par les hommes du renseignement pénitentiaire. Cet autre détenu, un converti prosélyte de 27 ans, était lui incarcéré pour apologie du terrorisme. Sa cellule est discrètement mise sur écoute et les surveillants observent un rapprochement entre les deux détenus dans la cour de promenade. Le nom d'un troisième détenu récemment libéré est alors échangé, griffonné sur un bout de papier. Il s'agit d'un légionnaire radicalisé âgé de 42 ans. Devait-il fournir des armes pour ce projet d'attentat? Ce projet d'attaque contre des surveillants pénitentiaires ou peut-être des passants? Les trois hommes le nie, mais des armes artisanales et un miroir brisé ont été retrouvés dans leur cellule. Les voilà de nouveau tous les trois derrière les barreaux. Ils risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.
Voilà, Sophie Parmentier. 7h34, Charlotte Piret, celui qui était présenté comme l'héritier d'Oussama Ben Laden est mort.
Hamza Ben Laden, fils de l'ancien leader d'Al-Qaïda, a été éliminé. Une opération à laquelle les États-Unis ont participé sans que l'on sache où et quand précisément. Hamza Ben Laden, âgé de 30 ans, était considéré comme le fils préféré dirigeant clé du groupe terroriste. La crainte grandissante d'une propagation d'Ebola dans la ville de Goma en République démocratique du Congo. Un deuxième décès est survenu hier dans cette agglomération de 2 millions d'habitants et un troisième cas a été détecté alors que l'épidémie a déjà fait près de 1800 morts dans des zones essentiellement rurales jusqu'à présent. 5 États de l'Union européenne dont la France ont finalement dit oui, accepté d'accueillir les 131 migrants sauvés en mer et bloqués depuis une semaine sur le navire Gregoretti. Une fois l'accord et la répartition actée, les réfugiés ont pu débarquer dans le port sicilien d'Augusta, conformément aux exigences du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Lax Milota.
Matteo Salvini avait prévenu « Je ne céderai pas ». Pas question pour lui de laisser débarquer les migrants sans accord avec l'UE. Après l'annonce d'un plan de répartition des naufragés entre pays membres, le ministre italien de l'Intérieur écrit sur Twitter « Mission accomplie ». 5 pays de l'Union semblent donc avoir répondu à l'appel de Matteo Salvini. Pour le président français, il s'agit, je cite, « de rester fidèle aux principes de la France, responsabilité, solidarité et coopération européenne ». L'Élysée précise que cette solution respecte les principes fixés lors des réunions qui se sont tenues ces derniers jours à Helsinki et à Paris pour trouver un mécanisme automatique de solidarité. Le 22 juillet dernier, Emmanuel Macron avait annoncé un accord entre 14 pays européens pour faire face à ce type de situation. Hier, après 3 jours de discussion, la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande ont affirmé prendre en charge les naufragés. La Commission européenne demande une solution pérenne car un nouveau bateau est bloqué au large des côtes italiennes. Bruxelles, Lax-Milota, France Inter.
C'est une des zones les plus surveillées au monde et pourtant, un homme nord-coréen a franchi cette nuit la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et sa voisine du Sud. Plus de 30 000 nord-coréens ont déjà fui le régime de Pyongyang depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Mais la plupart via la Chine avec laquelle la frontière est plus poreuse. Au Canada, les 2 jeunes hommes suspectés de 3 meurtres sont toujours en fuite et après 10 jours de chasse à l'homme, la police annonce qu'elle va réduire les moyens mobilisés pour retrouver les 2 suspects de 18 et 19 ans. Après avoir fouillé plus de 500 habitations et ratissé 11 000 km² de zones marécageuses et forestières.
Quand l'État profite de l'été pour... expulsés.
C'est ce que dénoncent les associations comme Droit au logement par exemple, chiffre à l'appui. 24 personnes expulsées de leur logement à Grenoble, 50 à Saint-Ouen cette semaine. Début juillet, ce sont 60 familles qui ont été évacuées à Tismons dans l'Essonne. Situation particulièrement tendue à Bordeaux également, au point que l'Église s'est invitée dans le débat. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, est ainsi monté au créneau pour réclamer des relogements dignes de ce nom. Thibault Lefèvre.
Depuis début juillet, l'État a évacué 4 squats, expulsé un peu plus d'une 100aine de personnes. Près de la moitié, donc quelques familles, sont aujourd'hui hébergées à la Bourse du Travail par la CGT. Michel Barabès est diacre et délégué épiscopal à la pastorale des migrants pour le diocèse de Bordeaux.
Monseigneur Ricard et l'Église donc dénoncent le manque de discernement, c'est-à-dire de mettre à la rue des femmes enceintes, des familles. La volonté de mettre de l'ordre dans les squats, c'est au-delà de l'humanité. L'État ne suffit pas à fournir des logements à tous ceux qui en ont le droit. Ça remue un peu quand même.
L'État ne respecterait donc pas ses obligations légales. Faux, répond la préfecture de Gironde, selon son secrétaire général Thierry Suquet. Toutes les personnes expulsées ont été accompagnées.
Nous, on a fait des propositions. Soit des propositions d'hébergement temporaire, soit des propositions de retour au pays. On a des gens, pour des raisons diverses, qui refusent les propositions de l'État. On peut revenir, comme on le fait aujourd'hui, à la Bourse du Travail, mais nous faisons une proposition à tout le monde, et si cette proposition est refusée, chacun doit assumer ses responsabilités.
Et l'État compte accélérer. 2 autres évacuations de squats sont prévues dans les prochains jours. Il y aurait à Bordeaux près de 150 squats qui hébergeraient 1500 personnes.
Thibault Lefèvre, effet de la canicule peut-être, de la sécheresse sans doute, incendie particulièrement dévastateur cette année. Ils ont déjà ravagé plus de surface que celle brûlée sur l'ensemble de l'année dernière, selon le ministre de l'Intérieur. Des incendies d'origine humaine dans 95% des cas. Quand les médias s'élèvent contre l'impunité de l'anonymat sur Internet et les commentaires nauséabonds qui vont avec, comment lutter contre ces propos racistes, homophobes, sexistes, haineux, parfois tout en même temps, qui affluent sous certains articles de presse en ligne? Comme d'autres avant lui, le quotidien Nice Matin vient de décider de rendre public ses commentaires avec les noms de leurs auteurs. Laurélie Carrive.
Des homos en pagaille, quel monde de dingue, berk, berk. C'est ce genre de commentaires et d'autres encore plus haineux, publiés sous un article qui recensait les mariages du week-end, qui ont incité le journal à frapper fort, explique Patrice Maggio, directeur adjoint des rédactions de Nice Matin.
On fait régulièrement des rappels, on modère d'ailleurs certains contenus, mais effectivement quand on a commencé à voir des commentaires, même les animaux font pas ça, un homme avec un homme, c'est tellement moche, putain, ça on peut pas tolérer ça.
Ça donne un article où les auteurs de ces commentaires commentaires sont cités nommément, sorte de mur de la honte. En 2015, la rédaction de Nord Littoral, basée à Calais, avait déjà fait la même chose pour dénoncer la violence de certains propos anti-migrants sur sa page Facebook. Une démarche qui avait eu des conséquences sur la vie du journal, se souvient Philippe Hénon, rédacteur en chef.
Il y avait toute la frange extrême droite qui n'a pas aimé et qui ont continué à nous harceler avec des menaces de mort. Certains lecteurs, même s'ils n'étaient pas agressifs vis-à-vis de nous, ils ne comprenaient pas que le journal local ne les suive pas à fond. Bon, tant pis, on a perdu des lecteurs et on a quand même continué notre travail et essayé de rester le plus neutre possible.
Depuis, Nord Littoral a désigné au sein de ses lecteurs des modérateurs chargés de signaler les commentaires problématiques et le ton est aujourd'hui peut-être un peu moins virulent, constate Philippe Hénon.
Les tarifs réglementés évoluent en ce 1er août. Légère, très légère baisse des prix du gaz entre 0,1 et 0,6%. Hausse en revanche de l'électricité. Les 25 millions d'abonnés aux tarifs réglementés verront leur facture augmenter d'1,23%. Et le groupe EDF va devoir payer lui aussi amende record, 1 800 000 euros pour des retards de paiement vis-à-vis de ses fournisseurs. Le ministère de l'économie entend ainsi envoyer un signal fort aux mauvais payeurs. Des rêves de jeunesse au cinéma cette semaine. Dernier film d'Alain Raoust avec Salomé Richard, Estelle Meyer et Johann Zimmer. L'histoire d'une jeune femme qui revient dans le village de sa jeunesse travailler à la déchetterie. Et figurez-vous que c'est bourré de poésie, selon Jacqueline Petros.
Dans cette déchetterie pierreuse, écrasée sous le soleil du Haut-Verdon, Salomé est seule. Une déchetterie, cimetière de notre économie de consommation, est lieu à l'écart. Mais voilà que fait irruption la volcanique Jessica, candidate d'un jeu de télé-réalité qui consiste à être premier de cordée. Elle est disqualifiée pour s'être arrêtée dans ce lieu isolé. Puis il y aura Clément, dont le frère, ancien amoureux de Salomé, a été tué par une grenade dans une ZAD. Tous trois devront un soir gérer un cycliste suicidaire, maillot jaune raté, qui ne supporte plus d'avoir voté Front National. Ce qui les unit, c'est la révolte et la sensation profonde que quelque chose doit changer.
Un jour, tout ça, ça va sauter. Pour nous, c'est cramé, meuf. Mais faut pas lâcher. Parce qu'un caddie bien rempli, un job de merde. Petit mec, on se passe. C'est pas la vie, ça. C'est la mort.
Rêve de jeunesse n'est pas un film militant, mais il est politique. Il parle de la souffrance qu'engendrent les méfaits de notre société. En un été, dans cette déchetterie, tous vivent une reconstruction. Les destins bousculés s'entrechoquent et provoquent l'étincelle du renouveau. Alain Raoust filme avec maestria et recul la mélancolie, le réconfort de se parler, l'espoir de l'amour et de l'amitié, avec des comédiens d'une justesse lumineuse.
Rêve de jeunesse d'Alain Raoult, c'est en ce moment dans les salles.
C'était le journal de Charlotte Piret.